9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va revenir sur le mariage annoncé entre TF1 et M6. Alain Lediberder est un spécialiste de l'économie des médias. Il va nous expliquer contre qui s'allient TF1 et M6, pas tellement Netflix, plutôt Google. Je recevrai ensuite Sébastien Rocher. Lui, c'est le spécialiste de la police. Il va nous décrypter les tenants et les aboutissants de la manifestation de mercredi dernier. Et l'on terminera l'émission avec l'acteur Gérard Lanvin. Il sort un album avec son fils, le musicien Manu Lanvin. Et ça tombe bien, il était mercredi à la manif des policiers. Alain Lediberder, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait partie des dirigeants de Canal+, puis d'Arte. Vous êtes également économiste, spécialisé dans les médias. Et vous êtes l'auteur de La nouvelle économie de l'audiovisuel, qui est paru à la découverte il y a 2 ans. Alors TF1, tout le monde le sait maintenant, a racheté 30% des parts d'M6. Un accord officialisé lundi qui devrait faire fusionner les deux chaînes dans un super groupe média d'ici la fin de 2022, dont Nicolas de Taverneau, l'actuel PDG d'M6, prendra la tête. Dites-moi, le rapprochement de deux entités jusque-là en compétition, c'est le signe que le secteur de la télévision traditionnelle est en pleine expansion ou c'est le signe qu'il est en crise pour vous ?
C'est clairement le signe qu'il est en crise. Quand un secteur se développe, les entreprises se multiplient généralement. Et au contraire, quand un secteur commence à régresser ou à stagner, c'est là qu'il y a des concentrations pour se partager en gros un marché qui stagne. Et c'est le cas de la publicité télévisée.
En plus, en France, on a un secteur de la télévision qui est plus concurrentiel que chez nos voisins. En plus d'un gros groupe public, on a 5 groupes de télé privés. En Allemagne, en Italie, il y en a moins que ça.
Oui, c'est ça. On avait une espèce de record d'Europe en France, puisque en Allemagne, il y a 2 grands groupes, le groupe RTL et le groupe ProSiebenSat.1. En Italie, il n'y en a qu'un, c'est Berlusconi. En Grande-Bretagne, il y a ITV qui a fait le vide et qui est le seul concurrent privé en télé classique de la BBC. Donc en France, effectivement, on avait 5 groupes privés se partageant 25 chaînes.
Oui,
c'est ce qui est un record d'Europe.
Oui. Donc beaucoup de concurrence. Alors on parle aujourd'hui de la naissance d'un géant TF1 M6, un géant capable de rivaliser avec les concurrents d'outre-Atlantique. Est-ce que c'est le cas ?
Non, pas du tout. Alors ça c'est une plaisanterie. C'est qu'en fait, dans le marché de la télévision commerciale, la télévision linéaire classique est un marché qui reste important. En France, le TF1 M6 est un géant. Mais les proportions sont les suivantes. C'est que toute la télé commerciale européenne rassemblée, ça fait 40 milliards de dollars de valeur. Toutes les télés américaines classiques, hein, les vieilles télés, les vieux groupes d'Hollywood, c'est 400 à 500 milliards de dollars, donc 10 fois plus. Et les nouveaux entrants qui sont en train de dominer le secteur audiovisuel, les Netflix, les Amazon, les Google, etc., c'est 4500 milliards de dollars, donc encore un facteur 10. Donc on est l'Europe entière, c'est 1/100 en valorisation boursière des nouveaux grands de l'audiovisuel mondial. Donc le géant, il faut le relativiser.
Ce sont eux les concurrents, donc c'est les concurrents de TF1, d'M6, enfin des chaînes françaises en général, c'est Netflix, c'est Amazon qui vient de racheter le studio MGM, c'est Apple, c'est Disney. Ou est-ce que c'est Facebook et Google ? Parce que les plateformes de streaming vivent des abonnements, Facebook et Google vivent de la publicité.
Ah ben exactement, vous avez tout à fait raison. C'est qu'en fait, l'évolution de la télé classique, hein, TF1, M6, ça n'a pas de rapport direct avec Netflix, Amazon. Si on se situe à un niveau global de l'audiovisuel, oui, tout est concurrent de tout. Mais dans le business de TF1 et d'M6, ils vivent de la publicité. Et leur véritable ennemi, depuis 20 ans maintenant, c'est Google, YouTube, Facebook. Enfin, YouTube appartenant à Google. Donc c'est deux sociétés qui, à elles deux, ont plus d'argent, plus de recettes publicitaires en France que toutes les télés françaises. Donc là, le vrai concurrent, le vrai ennemi de la télé commerciale, c'est Facebook et Google.
TF1 M6, ça représente 70% de la publicité à la télévision, ce qui inquiète les publicitaires. Il y aura moins de compétition sur les tarifs. Mais si l'on regarde à l'échelle de la publicité en vidéo, de la publicité sur le numérique, y compris Google et Facebook, ça va descendre à combien, là ?
Un peu moins d'un tiers, quoi, du vrai marché. C'est beaucoup, hein, mais oui. C'est quand même pas le chiffon rouge de 70%.
Oui, parce que sinon, avec Netflix, Amazon, Apple TV ou Disney, la concurrence, elle est quand même en termes de temps. Ces plateformes prennent de l'audience aux chaînes traditionnelles. Nos journées ne sont pas infinies. On ne peut pas à la fois passer des heures devant Netflix et passer des heures devant TF1 ou M6.
Ben, oui, c'est vrai. Mais d'une part, l'année qui vient de s'écouler, marquée par la pandémie, a montré que les deux pouvaient croître. Alors évidemment, quand on enferme les gens chez eux, ils ont plus de temps. Mais en tout cas, on n'a pas vu une bascule du temps consacré aux plateformes de SVOD au détriment des télés. Pour l'instant, les deux ont augmenté. En revanche, YouTube, là, prend du temps. Et en particulier pour, disons, les moins de 40 ans. Donc YouTube n'est pas compté dans Médiamétrie, mais en fait l'audience de YouTube c'est à peu près c'est supérieur à celui d'M6, ça va un jour dépasser France 2. Et chez les moins de 35 ans, c'est la première chaîne. Avec une petite différence, c'est que YouTube ne finance pas ses programmes, alors que TF1 finance ses programmes.
Parmi les conséquences du rapprochement entre TF1 et M6, on peut dire que les vedettes de TF1 désormais seront bienvenues sur RTL, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, RTL faisant partie du groupe M6. Mais en matière de production, ça c'est plus important, ça va changer quoi ? Il y avait une émulation entre TF1 et M6 tant que les deux chaînes étaient en concurrence. Elles risquent de prendre moins de risques aujourd'hui, non ?
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les producteurs audiovisuels. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que pour un certain nombre d'émissions, il y a effectivement un client de moins. Alors, ce qu'il faut relativiser, c'est qu'en fait, la grille de TF1 et celle d'M6 sont quand même pas très, très semblables. Les petites chaînes du groupe TF1 et les petites chaînes du groupe d'M6, elles se ressemblent. Mais la grosse chaîne TF1 et la chaîne principale M6 sont assez différentes. TF1 fait beaucoup d'infos, fait beaucoup de fiction. Alors qu'M6 fait beaucoup de flux, et plus que TF1. Donc il y a une zone de recouvrement, mais c'est pas du tout 100% de la grille. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que malgré tout, sur un certain nombre de formats, si TF1 avait le projet de faire une émission de cuisine concurrencer celle d'M6, bon, ça c'est mort, ça va plus se faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, globalement, l'intérêt des producteurs, c'est quand même que les chaînes gagnent de l'argent, parce qu'en fait, ils sont alimentés par toute une raison un réseau de taux, certains qui sont des taux légaux, hein, qui sont fixés par une réglementation, d'autres qui dépendent des conventions qu'ont passées les chaînes. Et en gros, les recettes des producteurs sont proportionnelles au chiffre d'affaires des chaînes. Les deux, donc, ont partie liée. Donc, en fait, si l'opération TF1-M6, comme il l'affirme, sert à limiter la diminution du marché, voire à l'augmenter, ça c'est bénéfique quand même, parce que le pire scénario pour les producteurs, c'est que les chaînes ne fassent rien et s'étiolent tout doucement en perdant 5% d'argent chaque année. Ça, alors il y aurait peut-être une concurrence et plusieurs guichets, mais plusieurs guichets pauvres. Donc est-ce qu'il vaut mieux plusieurs guichets pauvres ou moins de guichets mais plus riches, ça c'est aux producteurs de voir. En gros, ça va dépendre des producteurs. Je pense que ceux qui étaient effectivement qui jouaient sur la concurrence TF1-M6 vont perdre des billes. Mais encore une fois, ça porte sur à peu près un tiers du marché. Pour les deux tiers du marché, l'info, les documentaires, les grandes fictions, c'est pas un problème.
Aujourd'hui, une chaîne comme TF1 investit environ 1 milliard d'euros par an dans ses programmes. M6, c'est la moitié, c'est 500 millions. Netflix, en comparaison, c'est 19 milliards. C'est beaucoup, beaucoup plus.
Alors oui, mais il faut quand même dégonfler cette différence. Quand on dit que Netflix investit 19 milliards, c'est effectivement un investissement, c'est un stock. Ils achètent des programmes qu'ils vont programmer pendant des années et des années. En fait, dans leur compte, ils amortissent ces programmes sur 4 ans. Donc en fait, c'est comme si Netflix venait en 19 milliards, ils ont 4 ans d'antenne. Donc il faudrait diviser par 4, si vous voulez, la vraie consommation de ces programmes. Alors que quand on prend le chiffre de TF1 et d'M6, donc le milliard et demi français, le petit milliard et demi français, ça c'est du flux, c'est de l'argent qui dépensé dans l'année et qui ne s'accumule pas. Donc en fait, si on compare les dépenses réelles, une année, ce qu'on crame comme argent pour alimenter l'antenne, les télés européennes dépensent en fait beaucoup plus d'argent que Netflix, contrairement à ce qu'on dit. Mais en fait, on compte pas de la même façon. C'est-à-dire que dans les télés européennes, elles font de l'info, elles font du sport, elles font des flux, donc des choses qui se détruisent, dont la valeur économique est détruite à la diffusion. Et puis aussi, elles aussi font des fictions. Et si vous voyez, par exemple, rien que pour parler des chaînes publiques européennes, leur production de fiction, de films et de documentaires est bien supérieure à celle de Netflix et d'Amazon cumulées. Simplement, elles sont dispersées dans 27 pays.
Justement, pourquoi pas faire un Netflix européen ? Est-ce que ça aurait du sens ? Parce que, après tout, toutes ces fictions européennes, elles s'exportent peu.
C'est un peu tard, quoi. Bien sûr, ça aurait du sens. Bien sûr, l'Europe avait la capacité de le faire par la taille de son marché, par ses talents, par ses entreprises, par son volume de production. Elle pouvait tout à fait le faire. Mais elle ne l'a pas fait. Alors qu'elle aurait pu le faire, c'est-à-dire que en 2010, il y avait un groupe européen qui aurait pu devenir le Netflix européen, qui s'appelait Love Film. Et il appartenait à un fonds, un hedge fund norvégien, qui a préféré vendre à Amazon. Ce qui fait que c'est pour ça qu'Amazon est fort en Europe et notamment en Allemagne, c'est qu'en fait, ils ont racheté Love Film et ils l'ont appelé Amazon Prime en Europe. Et cette occasion-là, est-ce qu'elle peut se reproduire ? J'en doute. Mais effectivement, en 2010, il y avait une fenêtre de tir. Et puis Netflix était plus petit, le Disney n'était pas là, HBO n'était pas là, etc. Maintenant, sur le papier, si les Européens avaient une vraie volonté politique, oui, ils pourraient. Mais pour ça, il faut avoir une vraie volonté politique et des banquiers derrière. À mon avis, deux conditions qui ne sont pas réunies. Et donc ça, c'est un peu lamentable. L'Europe était relativement indépendante sur le plan audiovisuel jusqu'à il y a une dizaine d'années. Elle contrôlait, tout en acceptant beaucoup d'entreprises américaines depuis longtemps. Elle n'était pas fermée, mais elle était indépendante d'un point de vue industriel audiovisuel. Maintenant, c'est plus le cas. Elle est archi dominée par des entreprises américaines et c'est probablement irréversible. J'espère que me tromper, hein, mais c'est mal parti, quoi.
Merci Alain Le Diberdère. Je renvoie à votre livre « La nouvelle économie de l'audiovisuel ». C'est paru à la Découverte. On se retrouve juste après une pause. On va revenir sur la manifestation des policiers de mercredi dernier.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Sébastien Rocher, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Grenoble. Après l'avoir été à l'École nationale supérieure de la police pendant 25 ans, vous êtes l'auteur de La police en démocratie chez Grasset, un livre de référence, et l'éditeur en Europe de Policing and Society, un des journaux internationaux les plus importants sur la science de la police. Mercredi, les syndicats de police sont appelés à manifester devant l'Assemblée nationale contre les violences dont sont victimes les policiers. Est-ce qu'elles ont vraiment augmenté ? Un policier court-il plus de risque aujourd'hui de mourir en service ?
Alors, c'est le contraire. Alors, et malgré les chiffres qui ont été... Enfin, pas les chiffres, malgré les affirmations qu'on a pu entendre sur la dangerosité du métier de policier, les policiers font un métier qui peut être dangereux, c'est vrai, mais par rapport à une quarantaine d'années, ce risque a été divisé par 4, et par rapport à une vingtaine d'années, encore à peu près par 2. Donc, on a vraiment... Et c'est un résultat positif, je ne sais pas pourquoi on ne le met pas en avant. On a moins de risques d'être tué au travail et c'est lié aux protections qui sont meilleures. C'est lié aussi au fait que les gens, d'une manière générale, commettent moins d'homicides en France et en Europe.
Mais Gérald Darmanin dit que le nombre de policiers blessés a doublé en 15 ans. Alors est-ce qu'on a plus de risques d'être blessé ?
Alors on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de statistiques fiables sur les blessures pour différentes raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de notion de ce qu'est une blessure. Est-ce que si vous foulez le poignet ou vous prenez un pavé sur la tête qu'un manifestant vous a lancé, est-ce que ça, dans les deux cas, on considère que c'est une blessure ? Ensuite, parce que cette notion, elle s'applique à la fois à ce qu'on appelle être en mission et en service. Vous sortez de chez vous pour aller au commissariat, vous vous foulez le pied en descendant. Ça, c'est une blessure. Donc, ça va être comptabilisé également. Et enfin, même si, par exemple, vous manipulez votre arme au commissariat ou un collègue le manipule et vous vous faites tirer dessus, bah, c'est aussi comptabilisé comme une blessure. Donc, on a... une statistique des blessures qui est très incertaine, qui n'est pas homogène dans le temps, d'une part, et qui comprend toutes les origines de blessures, donc qu'on ne doit pas confondre avec l'agressivité vis-à-vis des policiers.
Gérald Darmanin a dit dans une interview qu'il préférait le bon sens du boucher-charcutier de Tourcoing aux études de l'INSEE, dont les enquêtes de victimation constatent, elles, une stagnation relative de la délinquance et une baisse des homicides. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est quand même un recul assez troublant parce qu'il a fallu à peu près une quarantaine d'années pour construire des instruments pour connaître la délinquance. Le débat qu'on a aujourd'hui sur y a-t-il plus ou moins de délinquance, c'est un débat qui a commencé dans les années 60 aux États-Unis avec une commission qui s'appelait la commission Katzenbach. Les Anglais, dans les années 80, ont développé des enquêtes de victimation, des enquêtes qui permettent de connaître le nombre de victimes sans dépendre de la statistique de police, parce que les policiers enregistrent ou pas, les personnes vont porter plainte à la police ou pas, donc on ne peut pas connaître la délinquance avec la statistique de police. Donc on a inventé d'autres outils. Ces enquêtes de victimation, il a fallu 40 ans pour ça, et maintenant les jeter aux orties au profit alors des bouchers charcutiers, et j'ai rien contre les bouchers charcutiers, c'est un recul dans la connaissance qui est extrêmement troublant. Pourquoi se priver d'un instrument précis ?
Mais Alain Bauer, que je recevais dans cette émission le 24 avril dernier, lui, c'est pas Gérald Darmanin, il croit aux chiffres, mais il les lit pas comme vous. Lui, il pense qu'il y a une augmentation de la morbidité, toutes les agressions dans l'intention de donner la mort. Alors effectivement, les homicides n'augmenteraient pas, mais l'intention de donner la mort, elle augmenterait. Qu'en pensez-vous ?
Ben, on ne peut pas le savoir, parce que vous ne pouvez pas connaître les intentions de quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est combien de personnes sont tuées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un médecin qui constate les décès et qui définit l'origine du décès. Bon, ça c'est une chose. Par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui a été assassiné, ce n'est pas la même origine. Donc on peut compter les corps et on peut compter les causes. Les intentions, on ne sait pas les compter.
Ben, parce quand on donne des coups de couteau dans le ventre, par exemple, c'est l'exemple qu'il me donnait, si je me souviens bien.
Alors, il y a des exemples qui peuvent être de bons exemples, mais la statistique des tentatives, si vous voulez, est une statistique des imputations. C'est-à-dire qu'on imagine que quelqu'un avait cet objectif. Et on ne peut pas être certain, si vous voulez, que cette catégorie, elle est homogène dans le temps, d'une année sur l'autre, par exemple, et on ne sait pas ce qu'elle contient exactement. Et donc, au niveau international, les criminologues utilisent une source. La statistique des homicides, elle permet de comparer la France aujourd'hui, il y a 10 ans et il y a 100 ans, permet de comparer la France à la Russie et au Brésil. Et c'est vraiment le seul outil stable qui va être utilisé par les professionnels du domaine.
On fait une pause, Sébastien Rocher. On se retrouve juste après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Sébastien Rocher, l'auteur de La police en démocratie. La sécurité étant devenue pour les politiques la clé de l'élection présidentielle, bon, on a bien vu, ça dope les syndicats policiers, mais ça dope aussi les politiques. Ils étaient très nombreux à venir soutenir les policiers. Le plus visible, c'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, venu manifester contre lui-même, on dit certains, mais est-ce que le fait de venir soutenir la police un jour pareil, est-ce que ce n'était pas pour que l'on ne puisse pas penser qu'elle manifestait contre lui ?
Oui, c'était quand même le grand paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des organisations policières qui ont fait un martyr d'un policier qui est mort en service et ils s'en servent comme un étendard pour essayer de maximiser, disons, leur revendication. Et de l'autre côté, en fait, Gérald Darmanin, qui est leur ministre, qui est critiqué, se joint à ceux qui le critiquent pour critiquer l'Assemblée nationale. Bon, je pense que ça témoigne de la faiblesse du ministre de l'Intérieur, qui a probablement estimé qu'il avait plus d'autre choix que de s'associer à la protestation contre sa politique pour essayer de détourner une partie des critiques. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va lui être bénéfique.
Et aux autres, alors, parce qu'on a vu Xavier Bertrand, Éric Zemmour, Jordan Bardella, Yannick Jadot, Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, qui veut 30 000 policiers supplémentaires et que le meurtrier de tout détenteur d'une autorité soit puni d'au moins 30 ans de prison. On a vu Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a demandé que la police ait un droit de regard sur les peines infligées en justice et ensuite sur les aménagements de peine. Bon, il a fait marche arrière ensuite en voyant le tollé, mais il y a quand même une surenchère qui est provoquée et qui risque de durer jusqu'à l'élection présidentielle.
Oui, il y a une très très grande surenchère de tous les partis politiques parce que ils ne peuvent rien faire. Ils sont face à une situation, un mécontentement policier sur lequel ils n'ont pas prise et sur des phénomènes délinquants sur lesquels ils n'ont pas prise non plus. Et donc, ils jouent une pièce de théâtre qui est la pièce de théâtre du bien contre le mal. Et ils imaginent, contre toute évidence, qu'en fait, que les policiers sont l'incarnation du bien. Donc, à partir du moment donné où les policiers sont le bien, ben, effectivement, c'est à eux de décider comment agir, c'est à eux de décider des peines, etc. Et ça, ça traduit une absence de... Et c'est le plus embêtant, une absence de stratégie policière pratique, si vous voulez. Prenons la question de... du cannabis, puisque c'est comme ça que le policier a été tué à Aix en se rendant sur un point de deal. La question du cannabis, c'est une question de santé publique. C'est pas une question de police. Et en mélangeant la morale, la santé, l'éducation et la police, comme on le fait aujourd'hui, on risque probablement de n'avoir aucune politique efficace, donc de voir la répétition de cette pièce de théâtre un certain nombre de fois avant l'élection présidentielle.
Mais on voit aussi que dans le viseur d'un peu tout le monde, pas seulement des syndicats policiers, il y avait la justice. La justice laxiste, les policiers l'ont répété mercredi, ils arrêtent 10 fois la même personne et la retrouvent le lendemain dans la rue. Et or, on n'a vu personne quasiment défendre l'institution judiciaire, à part le garde des Sceaux.
Oui, c'est troublant. C'est troublant. Disons que le discours, alors, des organisations syndicales, c'est de dire, voilà, la police est extraordinaire, elle est excellente. On parle plus de discrimination policière, on parle plus de violence policière. On dit juste la police est absolument excellente. Le problème de la police, c'est son environnement. Elle est mal commandée par les responsables politiques. Elle n'est pas rejointe dans son effort par le système judiciaire et la population en plus s'en sauvage. Donc ce modèle-là de la police qui aurait toutes les vertus et le reste de son environnement tous les défauts est un modèle qui est intenable. Et donc c'est effectivement surprenant, mais il y a maintenant un certain nombre de voix qui se sont quand même élevées pour dire que le problème était un petit peu plus large, mais c'est un peu surprenant de ne pas entendre plus de prise en considération du travail de la justice, qui n'est pas juste de faire ce que les policiers lui disent, mais au contraire, s'il y a une séparation entre la police et la justice, c'est parce que les policiers ont pour mission de détecter les infractions. Et les magistrats ont pour mission de décider si oui ou non il y a culpabilité et ensuite quelle est la peine qui doit être prononcée et quelles sont les modalités qui vont permettre la réinsertion d'un délinquant dans la société.
On dit que les policiers et les gendarmes votent en majorité pour l'extrême droite, mais on s'appuie pour cela sur des sondages dont les échantillons de population consultés sont souvent bien trop réduits, pas du tout représentatifs des 150 000 policiers et des 100 000 gendarmes. Alors vous qui les étudiez de près, ces policiers, ces gendarmes, qu'en pensez-vous ?
Alors je pense que les sondages dont on dispose, individuellement, chacun d'entre eux porte sur un nombre de policiers et de gendarmes qui est effectivement réduit. Mais lorsqu'on rassemble toutes ces études, si vous voulez, si on en fait une très grosse étude, une seule étude, en mettant bout à bout les échantillons, ce qu'on sait faire, on retrouve les mêmes résultats. Donc il y a bien une propension à voter pour le Front National, qui est le Rassemblement national maintenant, qui est plus élevé dans la police et la gendarmerie. On ne peut pas dire avec précision si elle est de 60% ou de 40%, parce que les échantillons restent petits. Mais on est à peu près certain qu'il y a cette orientation. Elle est logique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un parti, le Rassemblement national, qui se dit le parti de défense des policiers et également de la loi, de l'ordre, de la lutte contre la délinquance et l'immigration. Tous ces thèmes rejoignent des préoccupations des policiers. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, en fait, on a aussi des polices qui sont encasernées, hein, donc la gendarmerie mobile, par exemple, les CRS, la garde républicaine, ils ont dans des casernes qui sont géographiquement distribuées. Donc on peut aussi étudier les votes eux-mêmes dans les stations de vote et pas uniquement les sondages. Et on retrouve ce résultat d'une surreprésentation du Rassemblement national. Donc c'est assez crédible.
Je vous remercie Sébastien Rocher d'avoir été mon invité en direct sur Europe 1 de La police en démocratie. C'est votre livre de référence sur le sujet. C'est paru chez Grasset. On se retrouve dans un instant avec Gérard Lanvin qui était justement à la manifestation des policiers mercredi.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Gérard Lanvin.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Manu Lanvin.
Bonjour.
Gérard Lanvin, vous êtes tous sur tous les fronts. Hein. Un album avec votre fils, le musicien Manu Lanvin. L'Olympia l'année prochaine, le 27 mai 2022. Ça y est, la date est là. Vous êtes au cinéma dans Envole-moi, qui profite depuis mercredi de la réouverture des salles. Et puis on vous a vu mercredi à la manifestation des syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale. Vous êtes même intervenu à la tribune. Est-ce que l'on peut savoir pourquoi ?
Parce qu'il me l'avait demandé. J'ai beaucoup travaillé avec la BRI, avec le RAID, avec... les services de police, quand on fait des voyous ou des flics, on apprend à tirer chez eux. Voilà, j'ai toujours rencontré des gens un peu exceptionnels quand même, moi. En fait, on m'a proposé d'y aller pour un soutien et aussi un hommage. Voilà, après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je suis parti, évidemment, assez vite. J'avais de la promotion à faire. Mais j'ai tenu à soutenir, les forces de police parce que je ne fais pas l'amalgame. Il y a forcément des salopards dans la police, mais il n'y a pas que des salopards. Et en face, des bandes qui nous prouvent aujourd'hui que la rue est très, très dangereuse. Sans la police, je ne sais pas ce que va devenir son pays. Et à ce moment-là, je le dis sans aucun... J'ai pas de honte à dire ce que je n'ai pas de honte à penser. Je les soutiens parce que ce sont des gens que j'estime.
Vous êtes également dans Envole-moi avec Victor Belmondo et Johan Elundu, dans lequel vous jouez un chirurgien, un grand bourgeois. Je me suis dit, voilà, il se gabinise, Gérard Lanvin. Vous jouez pas souvent les grands bourgeois. Là, on se dit, ça y est, il est passé de l'autre côté.
C'est l'avantage de prendre un peu de ventre. ça peut se reproduire, ça me dérange absolument pas. Parce que, encore une fois, c'est une question d'écriture. Là, il y avait de quoi faire, un rôle. Ce n'est pas le rôle le plus important du film. Mais je me suis amusé avec Victor à jouer ce rapport de transmission, évidemment, et de le mettre à l'épreuve, ce jeune branleur, parce que c'est un fils de bourgeois qui est un jeune branleur, en fin de compte. Son père est chirurgien, cardiologue, pédiatre, et il lui propose un deal avant de définitivement rompre les ponts avec lui.
Manu Lanvin, en tant que père, il a été plutôt flic, plutôt voyou, plutôt grand bourgeois ?
Oh, quand même, plutôt flic, parce qu'il fallait surtout montrer le bon exemple, je crois. Donc, disons qu'il m'a surveillé, donc c'est un travail de flic de surveiller, j'imagine, non ?
Jusqu'à preuve du contraire, ouais.
reprendre si je déconnais. Je me rappelle, je sortais en douce le scooter le soir. Je faisais le mur, quoi. Je me suis fait choper une fois, voilà, ou deux. Donc là, il faisait le flic, ouais.
Cet album que vous avez fait ensemble, c'était imprévu ? C'est le résultat du premier confinement ou vous l'auriez fait de toute façon ?
J'avais déjà cette idée en tête. Moi, j'ai beaucoup de discussions sur les sujets de société. On connaît souvent ses coups de gueule ou même des convictions qu'il a sur des choses. Je l'ai très souvent vu s'exprimer, aussi s'enflammer très facilement, même dans le cercle familial. On l'a vu parfois sur des plateaux de télévision. Et je ne sais pas, un jour, j'ai eu une fulgurance. J'ai dit, il faut absolument que tout ce que tu as à dire, on le mette en musique. Déjà, la musique adoucit les mœurs. On va pouvoir peut-être un peu, cogiter notre histoire. Le format chanson, ben, c'est que 3 minutes. Donc, il faut être concis. Et au moins, on ne pourra jamais enlever de son contexte ce que tu as à dire, quoi.
Voilà, vous avez fait les musiques, Gérard a écrit les paroles, des paroles très ancrées dans notre époque, hein. Les femmes battues, l'envie de fraternité, il va falloir s'accepter, se rassembler, s'entendre, s'entraider, le manque d'humanisme aussi, nos 3 derniers présidents de la République que vous croquez cruellement dans, entre le dire et le faire, les délinquants juvéniles dans Petit Gars, on sent que vous y êtes allé franchement.
Bien sûr, c'est un constat social. J'ai eu le temps d'y aller, franchement, parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir à tous ces thèmes. J'avais des notes, on les a associées les unes aux autres, on a fait de la couture, parce qu'il faut chercher le nombre de pieds, les refrains, les couplets. Et ça s'est bien passé, parce que l'essentiel a été dit. J'en ai jeté beaucoup, hein, parce que j'en avais des masses, mais l'essentiel a été dit dans ce que je voulais proposer. Et les thèmes que j'ai abordés sont des thèmes de Lanvin, mais pas moi, c'est Lanvin, L'A N, le chiffre 20. Parce que, encore une fois, ce confinement nous a autorisé à avoir beaucoup d'observations sur les autres.
Mais je vous propose d'écouter Ici-bas.
Ça, mon gars, chacun doit faire son choix. Tous les vivants sont pas comme toi. Y a ceux qui prient et y a ceux ceux qui ne prient pas. Au nom d'un père, au nom d'une loi, au nom de passés sombres qu'on ne maîtrise pas. Prédicateur, perturbateur, on n'est jamais en paix quand on ne tolère pas. Ne compte pas combien tu en tues, mais combien t'en sauveras. L'amour est bien plus fort que les dieux auxquels on croit.
Gérard Lanvin, une chanson sur l'intolérance religieuse, vous y parlez de meute indécente qu'aucun ne contrôlera, avec une voix à la Johnny Hallyday, ça vous êtes vu. C'est la seule chanson, je trouve, que, sur laquelle vous avez la voix de Johnny, c'est le côté blues un peu...
Ça, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un bon compliment.
Ne bougez pas, Gérard et Manu, on fait une pause, on en écoute une autre juste après ça.
Europe 1, 9h-10h. C'est arrivé cette semaine.
Gérard Lanvin et son fils Manu Lanvin sont mes invités ce matin. On va écouter tout de suite On le dit sauvage, on le dit brutal. Là, vous chantez tous les deux.
Complexe d'infériorité, besoin de reconnaissance, d'être un peu considéré. Remplacer enfin cette ambiance pour pouvoir se redresser. L'important n'est pas la réalité, l'important c'est de revendiquer. Alors fais-toi écouter, garçon, sans jamais traîner les pieds. Pour sourire de nouveau le jour d'un prochain défilé.
Tire sur tes manches et sur le bas de ton
pantalon.
Un peu trop court
pour tes nouvelles ambitions.
Dans la cohue du défilé,
dans la cohue du défilé,
dans les rangs
salutés.
Mais quel autre choix pour tout faire basculer,
pour tout faire basculer.
Se sont tous précipités.
Jean Lanvin, vous pensiez aux gilets jaunes quand vous avez écrit ce texte là?
Oui, je pensais à tous ces gens qui revendiquent et finalement qu'on n'écoute pas tellement. Je parle des politiques. Il y avait des revendications évidentes, des gens qui travaillent pour des salaires difficiles à la fin du mois. Comme disait Coluche, les 30 derniers jours sont difficiles. On doit les soutenir, ces gens, parce qu'on fait partie de la même société. Et la souffrance qu'ils endurent est difficile à supporter quand on a, nous, l'avantage d'avoir de la facilité. Donc, j'ai pensé à eux en écrivant ça, bien sûr. C'était important pour moi de le dire. Après, ils se sont laissés déborder et envahir par des groupuscules. Mais les premiers Gilets jaunes ont été des gens d'une sincérité absolue et qui méritaient beaucoup de respect.
Il y a dans toutes ces chansons qui sont parfois graves et dures, hein, on l'a entendu, il y en a une, elle s'intitule « Mon héroïne », c'est un hymne à votre femme, Jennifer, la mère de Manu. On dirait un peu de paix dans ce monde de brut, tout à coup.
Ça l'est. Moi, c'est Jennifer a été pour moi mon havre de paix, parce que c'est quelqu'un qui s'est mis hors de la lumière, qui n'a jamais voulu être en avant, ni profiter de tout ça.
Qui était chanteuse, hein,
quand était chanteuse, bien sûr, qui m'a proposé un deal. Tu es un garçon, est-ce que tu veux devenir un homme? Éprouve-le-moi. Et pour prouver à une femme qu'on est un homme, c'est se préoccuper d'elle, de sa famille, et d'aller au plus fort de ces émotions-là, c'est-à-dire de voir en elle et dans son regard le respect qu'elle peut avoir de vous. Par des attitudes que vous lui proposez d'avoir. Donc à partir de ça, j'ai jamais pu lui dire merci comme ça. C'est la circonstance qui a fait l'histoire. C'est-à-dire que ces mots que je lui dis et qu'elle m'a dit en l'écoutant, c'est de moi que tu parles, mais tu ne m'as jamais parlé comme ça. Et parce que c'est difficile, on est toujours un peu dans l'humeur de la difficulté de dire des mots aussi importants, parce que cette chanson est importante pour moi, parce que je la remercie vraiment, car grâce à elle, j'ai pu réaliser une vie heureuse. Oui.
On les écoute, ces mots.
Elle ressemble à une saga d'été,
Elle est mon embellie. Héroïne passionnée, préférant la joie et la volupté. Elle est irrésistible, parce qu'imprévisible. Elle a dynamité, mais verrous inutiles.
Manu, quand vous avez composé la mélodie, c'était en pensant à votre mère ?
Ouais, je voulais absolument qu'il écrive, qu'il se dévoile un peu. Il le fait avec beaucoup de pudeur quand même, avec des mots qui sont ses mots à lui. D'ailleurs, à plein de fois pendant l'album, on a eu un doute. C'est lui qui me le donnait. Est-ce qu'on devrait rentrer dans la boucle un co-auteur qui pourrait peut-être lisser ça, trouver des meilleures images ? Moi, ce que j'aime dans le parler de Gérard, c'est ses aspérités de langage. Ce langage qui appartient aussi à une certaine époque. Effectivement, Coluche, Renaud et tout ça. Et c'est vrai, c'est, je trouve ça très original comment c'est écrit, cette hymne à l'amour. Et c'est pour ça, qui d'autre mieux que lui pouvait interpréter ses propres mots? C'est pour ça que l'idée, c'était pas non plus d'en faire un challenger de Frank Sinatra ou de Springsteen. Je voulais que lui interprète ses propres mots. C'était vraiment le but de cet album.
Vous allez être sur la route tous les deux avant d'aller à l'Olympia?
Ben c'est mon souhait le plus cher. C'est mon souhait le plus cher parce que le tourbus, pour moi, c'est un fantasme. Hein. J'ai vu des reportages sur tous ces groupes qui allaient en tournée. J'ai envie de jouer aux cartes dans le tourbus.
Surtout que vous avez déjà le bus. Quand vous allez sur les tournages, en général, c'est dans votre propre bus.
Il a surtout le permis. Donc moi, ça m'enlève un poste en moins. Donc je gagne économiquement. C'est carrément plus viable.
En tant que producteur. Eh bien, amusez-vous bien tous les deux. Et l'album, bah, il est dans tous les bacs, comme on disait autrefois.
Oui, merci.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est arrivée à son terme. On se retrouve demain à 9h. Après le flash, ce sera Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme, Sébastien ?
Eh bien, Frédéric, on va se demander si le problème de la police, c'est la justice ou le manque de moyens de la justice, comme le dit Gérald Darmanin ce matin dans Le Parisien. On reviendra bien sûr sur le conflit israélo-palestinien. Malgré le cessez-le-feu, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et puis Benzema, de retour en équipe de France. Le clip des Bleus, signé du rappeur Youssoufa, ça fait polémique. Et est-ce que les Bleus, est-ce qu'il y a des Bleus à l'âme française ? Voilà le troisième débat du jour.
Merci Sébastien, bonne émission.
Merci.